Adèle Blasquez, bonjour.
Bonjour.
C'est un mot que vous n'utilisez pas dans le livre, mais on a l'impression que les habitants sont toujours dans le déni. Ils vous disent « ici c'est calme », alors que clairement ça ne l'est pas du tout.
J'ai rarement entendu, autant qu'à Badiraguato, des personnes insister sur le fait que leur lieu de vie et que leur village étaient particulièrement tranquilles. Ou alors me disant « finalement, il y a de la violence comme partout, donc pas plus ici chez nous que dans le reste du monde ». Sans que ça veuille dire qu'ils y croient forcément, mais qu'en tout cas, il y a une nécessité de le dire. C'est pour ça que je me garde de parler de déni. Accepter un quotidien aussi incertain et aussi menacé, ben on a besoin de passer par différentes manières en fait, de s'en sortir, de l'accepter. Mais aussi, à Badiraguato et plus largement au Mexique, il y a un mécanisme très important de responsabilisation des victimes dans leur mort. En fait. Quand quelqu'un est mort, une phrase les plus récurrentes consiste à dire ben, « il a bien été tué pour quelque chose ». Et donc dire que finalement, il n'y a que les personnes qui mettent leur nez dans ce qui ne les concerne pas ou qui trempent dans des affaires pas claires, dire que nous, on n'est pas affectés, c'est dire que nous, on se comporte d'une manière qui, a priori, nous protège de la violence. Et donc, c'est une manière de se positionner, en fait, aussi vis-à-vis des gens avec lesquels on parle.
Dans la gestion même du village, de nombreux programmes sont mis en place par la mairie, mais en fait, ils ne sont jamais en rapport direct, en tout cas on ne nomme pas le narcotrafic.
Le quotidien est marqué par des morts à l'aube, par des disparitions entières de hameaux, par des attaques de hameaux, par des accaparements de terres réguliers, des enlèvements de femmes. Et je n'observe pas tant un rapport très fort entre cette violence et le quotidien de la mairie, mais au contraire, dans le cadre de la politique institutionnelle, il n'est jamais question ni du narcotrafic, ni même de la violence organisée. Y compris dans le cadre d'une campagne de désarmement qui est un programme fédéral que la mairie doit appliquer, les responsables locaux ne vont jamais nommer la violence, mais plutôt parler d'accidents domestiques. Je l'analyse comme une manière de sécuriser et de stabiliser le domaine de la politique institutionnelle comme séparé de tout le reste, de tout ce qui fait le contexte social, économique, la violence.
Justement, un des chapitres s'intitule « Voler une femme ». Qu'est-ce que ça recouvre ?
Les personnes peuvent utiliser cette expression à la fois pour parler d'une union consentie ou d'une fuite d'amant pour éviter les frais du mariage ou pour des cas d'enlèvement violent. Pendant mon enquête, une jeune femme se fait enlever par 6 hommes armés, puis violée, qui parvient finalement à s'échapper. Et après plusieurs mois, je vois que les voisins le qualifient comme une querelle de couple. Et donc, en étudiant ce terme de voler une femme, j'ai pu montrer comment les rapports de genre, même les plus anodins, pouvaient avoir des airs de famille, des choses à voir avec des rapports de genre extrêmement violents.
Vous expliquez aussi que les habitants, ceux qui le plus souvent cultivent la coca, sont pris dans un système purement capitaliste.
Souvent, ces situations de Badiraguato, base du cartel, berceau du narcotrafic, on les envisage toujours à l'aune de la participation à une activité criminelle. Et en m'intéressant aux familles de producteurs de pavots, ils apparaissent en fait un petit peu comme des sous-traitants Uber, on pourrait dire. En fait, eux sont uniquement des paysans qui récoltent la gomme de pavot, mais les opérations qui permettent d'engranger de l'argent, c'est le transport et la transformation du pavot en héroïne. Or, pour pouvoir transporter et transformer, il faut, outre de la main-d'œuvre armée, des véhicules, il faut aussi, et en grande partie, des accords avec l'armée. Or, les petits producteurs n'ont pas la possibilité de passer ces accords. Donc, eux, ils sont soumis au quotidien à la répression des militaires qui détruisent des parcelles ou qui peuvent extorquer un petit peu d'argent en échange d'un petit bout de parcelle qui serait préservé. Tandis que les intermédiaires qui, eux, bénéficient de ces accords en haut lieu avec l'armée, non seulement ils ont leurs propres parcelles qui, elles, sont très grandes, sur lesquelles ils embauchent des ouvriers agricoles, mais en plus, ils peuvent acheter en fait à des producteurs captifs leur récolte à un prix qu'ils peuvent imposer. La répression militaire de l'État mexicain fait en fait des producteurs captifs et soumis à la répression, permettant l'accumulation prédatrice des intermédiaires les plus importants.
Adèle Blasquez, merci.
Merci à vous.